La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans l'univers des contes. Donc nous sommes toujours dans le dragon, la bête à 7 têtes, 9 têtes chez les Chinois. 9 têtes bizarres, puisque bon, il n'y en a qu'une seule, mais dès qu'on en coupe une, elle ressort. Et là, nous allons aller à la source, en somme. La plus vieille histoire de dragon écrite que nous ayons, qui nous vient de Straparola, un Italien, né en 1480 à Caravaggio, mort en 1558 à Venise. Et on ne sait pas vraiment quel est son nom, parce que Straparola, c'est à travers les paroles, c'est le babilleur, le bonimenteur. Enfin, pas bonimenteur, parce que dans menteur, il y a menteur. Et c'est les paroles, et les paroles à cette époque-là sont des paroles vraies. Il n'y a pas de fake news, hein, ça n'existe pas. C'est, bon, la parole, elle sort du cœur, et c'est... Enfin, c'est une autre époque, donc il n'y a pas de téléphone, ni portable, ni fixe, ni TSF, ni télé, ni radio. La radio n'existe pas. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de voiture. Il y a juste des personnes qui marchent à pied sur des chemins. Et des bêtes féroces, même en Italie, où on va trouver donc un lion, un ours et un loup. Donc, chers auditeurs, donc ce bavard, ce babilleur, Straparola, a écrit les nuits facétieuses. Donc, il y a 13 nuits. Et où, dans ces 13 nuits, chacun va raconter une histoire parce que c'est une fête extraordinaire qui dure 13 jours. Et chaque nuit, un personnage va raconter une histoire. Cette histoire de dragon, c'est la 10e nuit. Et donc, on va commencer avec un peu de musique, si vous voulez, pour nous mettre dans l'ambiance des temps anciens, et où il raconte que, feuilletant les anciennes, modernes histoires, je trouve la prudence être l'une des plus belles. Celle qu'il va nous raconter est recommandable vertu que l'on puisse avoir pour ce que l'homme prudent se souvient des choses passées, discerne les présentes et avec un meilleur jugement prévoit les futures. Mettant donc échus ce soir discourir, je veux à ce propos vous réciter une nouvelle laquelle j'avais quelque soit longuette et pitoyable si pensée je toutefois qu'elle n'en sera moins plaisante et qu'on en pourra tirer quelque profit. Il n'y a pas fort si longtemps qu'était une pauvre femmelette qui avait un fils nommé Césarin de Berny. Jeune homme discret et beaucoup plus doué des biens de nature que de fortune. Celui-là, un jour, étant parti du logis pour aller au champ, arriva près un bois ombragé, touffu et fort épais, de la beauté duquel, étant épris, entra dedans, où de fortune, par hasard, trouva une caverne pierreuse en laquelle étaient lionceaux, oursons et louveteaux. Il en prit un de chaque espèce, s'en retourna chargé de ce butin en sa maison, où avec toute soigneuse diligence les nourrit ensemble et façonna d'une telle industrie et cure soigneuse que l'un ne pouvait être sans l'autre. Et outre tout cela, s'était rendu si privé avec les personnes qu'il n'enfonçait personne. Ces animaux, revêches et furieux de nature, s'étant par accident fait domestiques, et devenu grand, fort et robuste, était souvent mené à la chasse par leur maître Césarin, qui ne retournait jamais au logis qu'il ne fût chargé de venaison, dont ils substantaient leur petit ménage, de quoi sa mère était émerveillée, lui demandant à toute heure comment il prenait tous les jours tant de gibier. À quoi il faisait réponse que c'était par le moyen des animaux qu'il nourrissait. Toutefois, la pria bien fort de n'en dire rien à personne, de crainte que quelqu'un ne les lui enlevât, ces trois animaux. À quelques jours de là, cette mère se trouva avec une sienne voisine qu'elle aimait beaucoup, tant pour qu'elle était femme de bien que serviable et de bonne amitié. Et comme elles devisaient ensemble de plusieurs choses, cette voisine demanda à cette bonne mère comment faisait son fils pour prendre tant de gibier. Laquelle lui manifesta le tout, et quand elle en prit congé, elle s'en retourna à sa maison, la voisine, et à peine sortie que le mari à la voisine arriva, auquel, avec un visage riant, elle raconta ce qu'elle avait appris de la bonne femme, la mère de Césarin. Quoi qu'entendu par cet homme, aussitôt, donc le voisin, alla incontinent trouver Césarin, à qui il dit « Eh bien quoi, fillot, tu vas donc ainsi tous les jours à la chasse et ne daignes jamais appeler personne avec toi ? Vraiment, cela est bien mal séant à l'amitié qui est entre nous. » À ces paroles, Césarin se prit à rire et il ne répondit rien. Et le lendemain, sans prendre congé de sa mère ni de ses sœurs, troussant ses quilles, partit accompagné de ses animaux et s'en alla à l'aventure. Ayant longuement cheminé, arriva finalement au royaume de Sicile, en un lieu désert. Un lieu inhabité, sauf par un ermite, et qui revenait de la chasse. Et quand le pauvre ermite voulut rentrer dans sa maisonnette, il vit ces trois terribles bêtes, il en eut une telle frayeur qu'il pensa tomber à la renverse et s'en voulait fuir, quand Césarin, s'en apercevant, lui dit « Non, mon père, n'ayez pas peur, entrez hardiment dans votre maison, car ces bêtes sont privées et si domestiquées qu'elles ne vous feront point de mal. Je vous en réponds sur ma vie. » Ah donc, l'ermite, se fiant aux paroles de son hôte, entra en sa petite maison. Lors Césarin, qui était fort las et par le long travail du long chemin qu'il avait fait, dit à l'ermite « Mon père, je vous supplie, si vous avez quelque peu de pain et de vin, m'endommez, car je n'en puis plus. » « Ah oui, dame, mon enfant, répondit l'ermite, mais non pas tel ni si bon que tu le voudrais bien. » Donc il lui présenta du vin, du pain, et ayant écorché et démembré quelques légères venaisons qu'il avait prises au lacet, il en mit une partie à rôtir et l'autre à bouillir. Et la nappe étendue fut couverte de ces viandes dont ils soupèrent tous deux, devisant ensemble de plusieurs choses. Et Césarin, s'informant de l'assiette, écoutez, et demandait les commodités, les fertilités du pays. Et l'ermite lui dit « Hélas, hélas, mon fils, le pays n'est que trop bon et beau, et on vivrait tous très heureux, si ce n'était un cruel dragon qui repère ici, près, pas loin, la laine duquel est tant venimeuse qu'elle empoisonne toute chose, et il n'y a personne qui lui puisse résister. Il est de si grandes ruines qu'il faudra désormais que les pauvres habitants qui restent encore quittent le pays. Et outre tout cela, il lui faut tous les jours envoyer un corps humain pour sa viande. Autrement, le dragon détruirait tout. Et de malheur est advenu que le sort est tombé sur la fille du roi, laquelle en beauté, vertu et bonne grâce excelle toute autre dame ou damoiselle. Il n'y a rien en elle qui ne soit digne d'éternelle louange. Et certes, c'est grand dommage qu'une telle étant accomplie princesse, sans avoir offensé, meurt si cruellement. Césarin, entendant cela, songe un peu, puis dit « Mon père, Dieu est tout-puissant, j'espère en sa miséricorde, et que, avec l'aide de sa sainte grâce, avant peu vous entendrez parler de la délivrance de la pucelle. » Et l'ermite lui dit « Oh ben, je supplie le Seigneur bien humblement. » Et là-dessus, ils se retirèrent pour aller se reposer. À peine l'aurore matinale commençait à rayer sur les cimes des montagnes, Césarin se leva, habillé, appela ses animaux et en leur compagnie, s'en alla au lieu où repérait ce furieux dragon auquel on avait déjà amené la princesse pour y être dévorée. Au moyen de quoi, s'approchant d'elle, qui pleurait amèrement, il la réconforta en lui disant « Madame, n'ayez pas peur, prenez courage et réjouissez-vous, d'autant que je suis ici venu pour vous délivrer ou mourir en peine à vos côtés. » Et comme il achevait ces paroles, voici approcher l'insatiable dragon qui, à gueule bée, cherchait dévorer cette belle princesse, laquelle, toute transie de peur, tremblait comme la feuille sur l'arbre. Alors Césarin, mu à compassion, frappant ses mains l'une contre l'autre et sifflant sourdement entre ses dents, alla ces trois animaux contre cette lourde et furieuse bête, lesquels d'un courage obstiné la combattirent si vivement et si furieusement qu'enfin les trois bêtes l'abattirent et l'occirent. Césarin, voyant ce combat être réussi au désir de son intention, s'approcha de cette bête morte, à laquelle, ouvrant la gueule, il arracha la langue, qu'il emporta, puis, sans dire mot, ni même se faire voir à la princesse, s'en retourna vers l'ermite auquel il raconta ce qu'il avait fait, dont le bonhomme fut merveilleusement consolé. Ces choses ainsi passées, advint qu'un lourd villageois de grosses pattes passant par là vit le corps mort de ce fier et horrible monstre, duquel s'approchant et mettant la main à une petite hache qu'il portait, pendue à sa ceinture, lui coupa la tête et la mit dedans un sac qu'il rapportait pour aller au marché ou parce qu'il en revenait, puis prit son chemin vers la ville, qu'il continuait à pas longs et hâtés, quand il rencontra la princesse qui s'en retournait, laquelle, l'accostant, l'accompagna jusqu'au palais du roi son père, auquel il la présenta, dont ce bon roi, qu'il avait pleuré morte, reçut tant d'aise et contentement qu'il pensa mourir de joie. Le monsieur le pitot tout fier et content de sa personne, mettant la main à son gras chapeau, d'une parole rude et arrogante, dit « Sire, votre fille doit être ma femme, puisque sa vie dépend de moi, qui la lui ai sauvée au hasard de la mienne. Et en signe de ce, voilà de quoi. » Ce disant, tira de cette poche la tête à ce furieux dragon, laquelle il présenta au roi, qui, l'ayant bien vue et diligemment considérée, commanda qu'elle fût attachée sur la porte principale de son palais royal en mémoire éternelle de la délivrance de la princesse sa fille et de la délivrance de tout le pays, ordonnant pour solennaliser cette heureuse journée que l'on festoie, tenant cour ouverte à tout venant, et afin de montrer à ce pied plat qu'il ne voulait demeurer ingrat envers lui d'un tel bénéfice, lui accorda sa demande, pour laquelle effectué, il fit faire un somptueux banquet auquel furent invitées toutes les dames de la cité, lesquelles, pompeusement vêtues, s'y trouvèrent pour congratuler cette délivrance. En ces entrefaites, l'ermite avait une recherche à faire par la cité, et lequel a entendu le bruit qu'un vil paysan avait auxilié le dragon et qu'en récompense, le roi lui donnait sa fille en mariage. Il pensa mourir de deuil. Et laissant là la quête qu'il avait amenée à la cité, retourna en son ermitage, raconter à Césarin comme le tout se passait au château. Lequel, au récit de tant fâcheuses nouvelles, s'attrista à soi-même et à l'instant, tirant d'une besace la langue de ce dragon, donna à l'ermite le témoignage de ce qu'il en était. L'ermite entendant ça et voyant donc la langue, il savait la vérité du fait, retourna trouver le roi, auquel, ayant premièrement défublé son pauvre capuchon, donc il baisse son capuchon, je suppose, défublé, il dit en cette sorte, « Sire, ce serait une chose fort détestable qu'une princesse qui est la fleur de toute gaillardise, la règle d'honnêteté, le miroir de noblesse et doué de toute vertu et de toute beauté, fut donné pour femme et épouse à un lourdeau, sale, vilain, vicieux, laid, qui n'a jamais hanté que les étables et le parfum du fumier, et qui est d'autant plus à fuir que par imposture et mensonge, il chercha à décevoir et abuser votre majesté, affirmant faussement être celui qui a auxilié le puant dragon, ce qui est totalement faux et controuvé, comme s'il vous plaît, je lui montrerai. C'est pourquoi, désireux de votre honneur et de votre gloire et du bien, repos et utilité de madame la princesse, votre fille, je suis ici venu pour vous en avertir. » Le roi, entendant parler le saint homme de la sorte, considérant de quelle fidèle affection il disait ces choses, y ajouta entière foi et fit cesser les instruments et le bal, et mettre fin aux joutes et tournois qui avaient été donc commandés pour la fête du mariage, commanda à l'ermite de dire publiquement qui était celui qui avait délivré sa fille. Et le bonhomme, lui, l'ermite, il ne demandait rien d'autre. Il dit « Sire, il n'est pas besoin que je vous déclare ce nom. Mais s'il plaît à votre majesté, je peux le faire venir, et vous verrez alors un jeune homme, beau, de belle taille, dispos, gaillard, et tant aimable que l'on dirait que c'est l'amour même, les bonnes coutumes, les honnêtes façons duquel le rendent admirable sur tous les autres. Le roi, désireux de voir ce fameux jeune homme, dit à l'ermite qu'il le fisse venir, lequel, ayant reçu ce commandement, retourna en son petit ermitage trouver Césarin, auquel il fit entendre la volonté du roi. Césarin, ayant pris sa besace où était cette langue, accompagné de l'ermite et de ses trois animaux, s'alla présenter au roi, devant lequel, se jetant à genoux, il dit « Sire, la peine et le travail ont été miens, mais un autre a triomphé de l'honneur. Avec ces miens animaux, j'ai délivré la princesse, votre fille, de la gueule du fier dragon qui la devait dévorer, et lequel j'ai mis à mort. Et néanmoins, un autre en emporte la récompense ?»«
Tu le dis, » dit le roi, « mais quelle preuve m'en donneras-tu plus certaine que les témoignages de celui-là qui m'en a apporté la tête que tu vois ici pendue ?»
Et Césarin répond, « Je ne demande ici que vous croyez ce que la princesse, votre fille, en pourra dire. Le seul témoignage de laquelle est suffisant pour convaincre d'imposture mon compétiteur. Mais je veux encore donner si bonne enseigne que, par celle, on connaîtra que ça était bien moi et non un autre qui a oxy le dragon. À cette chose, je supplie humblement votre majesté, sire, faire regarder s'il y a une langue dans cette tête, pour que je m'assure que l'on n'y en trouvera point. » À ces paroles, le roi demeura d'abord tout étonné, et il commanda qu'on aille visiter cette tête, et il lui fut rapporté que véritablement elle était sans langue. Alors Césarin, mettant la main à son bissac, en tira la langue de ce furieux monstre, laquelle était si grande qu'elle donnait ébahissement à tout un chacun, démentant par ses enseignes la malice et méchanceté de ce brave et audacieux vilain que le roi fit pendre et sur le champ pendre et étrangler. Et embrassant Césarin et le retenant pour son gendre, lui fit en tout triomphe et grande magnificence épouser la princesse, sa fille. L'histoire pourrait se terminer là. Hein? Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Eh bien, non. Il y a une suite. La mère de Césarin et ses deux sœurs, qui étaient très loin de la Sicile, hein, puisque vous vous souvenez, chers auditeurs, chères auditrices, hein, que lorsque la mère avait trahi le secret de son fils, et que le voisin était venu lui faire des remarques en disant « Quoi, tu pars à la chasse tout seul et tu ne vas pas profiter tes animaux à d'autres ?» Il n'a rien dit de Césarin, il n'a rien dit à sa mère, il n'a rien dit à ses sœurs, il n'a rien dit au voisin. Il est parti avec ses trois animaux. Donc, la mère et les sœurs qui sont au loin, les nouvelles vont très vite. Il n'y a pas de téléphone, mais ça fonctionne bien. Elles ont entendu ces nouvelles et que c'était véritablement lui, le fils, le frère, qui avait eu cette cruelle bête et qui avait délivré la pucelle et l'avait épousée. Elles allèrent en Sicile où elles furent honorablement reçues. Mais le mauvais naturel de ces femelles, qui d'un bon œil ne pouvaient voir prospérer leur sang, leur fit concevoir une telle et mortelle envie contre Césarin qu'elles l'eussent volontiers dévoré. Et plus elles pensaient à son bonheur à lui, et d'autant plus cette peste gagnait leur traître et déloyal cœur, de façon que, n'en pouvant plus, elles délibérèrent entre elles le faire mourir. Pourquoi effectuer, après avoir songé tous les moyens à elles possibles, elles s'imaginèrent prendre un os, l'aiguiser par l'un des bouts, qu'elles empoisonneraient, puis le mettre entre les linceuls de son lit, la pointe en haut, afin que Césarin, s'allant coucher, se jetant inconsidérablement sur le lit à la façon des jeunes gens, fort amoureux, se piquant, ce qu'elles exécutèrent. L'heure de se coucher venue, Césarin, avec la princesse, entre en sa chambre, se dépouille le premier et se couche. Mais si, malheureusement, qu'il se ficha dans le côté gauche la pointe de cet os envenimé, tellement que le poison s'étant répandu par son corps, alla jusque au cœur et l'étouffa. La princesse, le voyant mort, commença à crier, à hurler, se plaindre, se tourmenter et faire un tel et si grand deuil qu'au bruit tous les courtisans y accoururent, lesquels, trouvant Césarin passé de cette vie, tournant et retournant son corps sans dessus dessous pour en chercher les causes, virent qu'il était blessé au côté, qu'il avait gros, enflé et noir comme la plume d'un corbeau, ce qui leur fit penser qu'il avait été empoisonné. Le roi a entendu cela et il fit faire une soigneuse et diligente perquisition. Mais ce fut en vain, car nul ne put découvrir les malfaiteurs. Finalement, chacun étant vêtu de deuil, le roi ordonna que le corps mort fût solennellement et en toute pompe funèbre enseveli. Cependant, et comme les funérailles se préparaient, la mère et les sœurs de Césarin furent touchées de quelques remords de conscience, tant qu'elles commencèrent à s'étonner et avoir peur que le lion, l'ours et le loup, entendant la mort de leur maître, ne les découvrissent, et ce par quoi elles proposèrent entre elles là de remplir les oreilles des trois bêtes avec du plomb afin qu'ils ne puissent rien entendre de ce que se faisait. Et comme elles se l'imaginèrent, ainsi fut-il par elles exécuté. Mais ne purent tant bien boucher les oreilles à tous trois que le loup entendait quelque peu de l'oreille droite. Comme donc on portait ce corps mort en terre, le loup, qui entendait quelques cris et gémissements, dit au lion et à l'ours : « Compagnon, il m'est avis que j'entends mauvaises nouvelles qui ne me font rien espérer de bon. Et écoutez donc, je vous prie. » Mais les deux autres avaient les oreilles tellement emplombées et sourdes qu'ils n'entendaient rien de ce que leur disait le loup, lequel leur répéta ces paroles par plusieurs fois. Enfin, voyant qu'ils n'étaient pas entendus par eux, qu'ils parlaient à des sourds, leur déclara par signe ce qu'il voulait dire, et fit tant que les deux compères comprirent je ne sais quoi de mort, à raison de quoi l'ours, avec ses ongles durs, longs et crochus, gratta tant les oreilles au lion qu'il les déstoupa et en tira le plomb, auquel le lion en fit autant et au loup aussi. Ainsi donc, ils ont retrouvé Louis. Et le loup leur dit « Frère, il me semble que j'ai ouï dire que notre maître est mort, et je ne sais qu'en penser, tant j'ai peur que ma peur ne soit véritable, attendu que, selon sa coutume, il ne nous vient plus visiter ni distribuer nos vivres. C'est pourquoi je serais d'avis qu'on suce la vérité. » Cela dit, ils sortirent tous trois de compagnie, mais ils ne furent plus tôt à la rue qu'ils virent que l'on portait en terre, par quoi Émus de rage et de fureur, ils coururent droit vers la bière où était le corps. Les prêtres et autres qui accompagnaient le cercueil, voyant ces animaux, se prirent à fuir de toutes parts, l'un par-ci, l'autre par-là, et ceux qui portaient le corps à le laisser en la place pour penser à leur salut. Toutefois, certains opiniâtres, et plus hardis que les autres, ne voulurent bouger pour voir la fin de tout ce mystère. Donc ces bêtes, avec les dents et griffes, firent tant qu'ils tirèrent du suaire le corps de leur maître, lequel ils tournèrent et virèrent tant qu'ils trouvèrent la plaie. Alors le lion dit à l'ours : « Frère, il serait bon avoir un peu de la graisse de tes boyaux, pour ce qu'elle est tant salubre que, sitôt que la plaie de notre maître en serait recouverte, il ressuscitera. » Et l'ours lui répond : « Ah ben c'est assez dit, qu'il ne tienne à cela, que notre maître ne vive. J'ouvrirai la gueule grande le plus qu'il ne me sera possible, et tu mettras ta patte dedans jusqu'à mon gosier, puis avec tes griffes t'en tireras tant que bon te semblera. » Et c'est ce que fit le lion, lequel, après avoir oint de cette graisse la plaie à ses reins, et celle-ci bien ramollie, il la suça et, prenant de certaines herbes, la broya, puis mit jus et maire sur la plaie, la vertu de laquelle herbe fut si grande qu'elle alla jusqu'au cœur, qu'elle purgea de toute mauvaise humeur, le réconfortant et vivifiant tellement que petit à petit, Césarin commença à respirer, reprendre ses forces et retourner à la vie. En voyant ça, les assistants, étonnés de ce miracle, coururent incontinent l'annoncer au roi et que Césarin était ressuscité. Le roi, joyeux de tant de bonnes nouvelles, prenant par la main sa fille, qui Dorothée avait nom, alla au-devant de Césarin, que l'un et l'autre embrassèrent et baisèrent d'une telle amitié que c'était plaisir à voir. Les nouvelles de cette résurrection vinrent aux oreilles de la mère et des sœurs, qui leur apprêta assez à rêver. Toutefois, faisant bonne mine et faisant en être fort joyeuse, allèrent au plaisir pour voir Césarin au palais et se réjouir avec lui de sa santé et vie recouverte. Mais elles ne se furent plutôt présentées devant lui que la plaie de Césarin s'ouvrit, saignant en telle abondance que l'on ne la pouvait étancher, dont elles perdirent toute contenance et couleur, demeurant pâles comme un drapeau. En voyant cela, le roi eut incontinent soupçon sur elles. Il les fit prendre, mis à la torture, et elles confessèrent le tout. Au moyen de quoi, sans autre forme ni figure de procès, il les fit brûler vives et nourrir songeusement les trois animaux qui n'abandonnèrent jamais Césarin, lequel, avec sa Dorothée, a toujours vécu en paix et félicité. Chères auditrices et chers auditeurs, merci d'écouter ces paroles qui nous viennent de loin, puisque cet homme vivait avant 1500, 1400 et quelques. Et je vous souhaite une joyeuse semaine et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine. Thank you.
Et...